conservatrice avec Margaret Thatcher de 79 à 97. Et puis après, on a eu Margaret Thatcher et John Major. Et puis après, on a eu les travaillistes depuis 97. Et là, il est possible que les travaillistes soient chassés du pouvoir. Ils sont même en mauvaise position dans les sondages qu'on a pu constater ces derniers temps. Donc ça, c'est le premier élément, le changement de majorité possible. Le deuxième élément, c'est qu'il est aussi envisageable que cette fois-ci, il n'y ait pas de majorité au Parlement. Jusqu'à présent, le système électoral est tellement injuste qu'il accorde une majorité presque automatique au parti qui est arrivé en tête, même quand il est arrivé en tête de très peu, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je crois, les travaillistes ont une majorité de 60 sièges, alors qu'ils n'ont obtenu que 21% des suffrages de l'électorat. C'est une performance. Là, il est possible qu'aucun des partis n'ait une majorité et qu'on aboutisse à une autre performance qui serait de voir le parti qui arrive en deuxième position obtenir deux fois moins de sièges que celui qui arrive en troisième position. Et le parti qui arrive en troisième position, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est un peu difficile, qui se retrouverait quand même en position de former le gouvernement. À l'heure actuelle, il n'est pas impossible que les travaillistes forment le gouvernement, même s'ils arrivent en troisième position, en bénéficiant du soutien des parlementaires du Parti libéral-démocrate, qui, lui, se serait retrouvé en deuxième position. Parce que c'est un système électoral qui dit que le candidat qui arrive en tête dans une circonscription, il n'y a pas de deuxième tour, il obtient le siège. En d'autres termes, si vous êtes très bon dans tout le pays, mais que vous êtes toujours deuxième, vous n'obteniez rien.
Très bien, c'est clair.
C'est un système qui, d'ailleurs, je crois, inspire la droite française, qui envisagerait de passer à un système de ce type pour s'assurer qu'elle aura une majorité, parce qu'elle est, pour le moment en tout cas, plus unie que la gauche. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est intéressant. Il pourrait ne pas y avoir de majorité au Parlement britannique et un gouvernement de coalition. Et le troisième élément qui est plus intéressant encore, à mon sens, c'est que le discours politique au Royaume-Uni a un peu changé, qu'on a l'impression que les conservateurs ne se réclament pas trop de Margaret Thatcher, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, et qu'au même moment, les travaillistes ne se réclament pas trop non plus de Tony Blair, pour les raisons qu'on peut imaginer aussi, et en particulier la guerre d'Irak. Et on a même ce paradoxe, moi, qui m'a frappé quand j'étais à Londres, parce que je voyage moins loin que vous, donc je n'ai été que de l'autre côté de la Manche, c'est ces affiches où on voit le Premier ministre britannique, Gordon Brown, souriant, alors qu'il ne sourit jamais, il a même la réputation d'être plutôt revêche, souriant, qui dit, enfin, il y a une phrase de lui, en tout cas, qui semble être une phrase de lui, « J'ai accru l'écart entre les riches et les pauvres, laissez-moi continuer, votez conservateur ». Bon, en fait, c'est évidemment une affiche des conservateurs qui reproche aux travaillistes d'avoir accru l'écart entre les riches et les pauvres. Alors, il faut dire, c'est tout à fait vrai. Ils ont accru l'écart entre les riches et les pauvres. Et quand ils ont pris le pouvoir, ils l'ont pris des mains de Major et de Thatcher, qui, vous l'imaginez, avaient déjà fait un certain travail en ce sens. Mais quand les travaillistes sont arrivés au pouvoir, les 1% les plus riches au Royaume-Uni avaient 17% de la fortune nationale. Et après un peu plus de 10 ans de règne travailliste, les 17% sont devenus 21%. Donc les 1% les plus riches obtiennent 21% de la fortune nationale. Alors il est évidemment paradoxal que les conservateurs reprochent aux travaillistes d'avoir accru les écarts de fortune. Et c'est l'un des paradoxes de cette campagne qui montre que, en quelque sorte, ce socle libéral pur et dur est en train de craqueler, que les conservateurs signalent que, certes, il faudra faire des coupes sociales draconiennes parce que le budget est très déficitaire, mais qu'ils vont protéger le système de santé. Et les travaillistes qui commencent maintenant à dire, d'abord, qu'ils sont travaillistes et pas néo-travaillistes, du temps de Tony Blair, on parlait sans arrêt de New Labour. Là, on parle moins de New Labour, on parle de Labour tout court, comme s'il y avait une volonté de revenir aux sources. Et ces travaillistes, donc, parlent de politique industrielle, d'intervention de l'État, tout un discours qui semblait avoir été balayé par 20 ans ou 25 ans de Thatchero-Blairisme et qui réapparaît à la surface. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la révolution est en marche au Royaume-Uni. Elle n'est d'ailleurs pas tellement en marche
mais
ailleurs,
si je comprends,
ailleurs non plus.
Le modèle britannique, c'est fini.
Mais disons que cette espèce de modèle britannique d'une droite très dure, très ultralibérale et d'un parti travailliste qui voulait montrer qu'il serait encore plus pro-capitaliste que la droite semble ne plus avoir le vent en poupe.